France Inter.
De quoi Kylian Mbappé est-il le nom ? Celui d'une révolution, celui d'un monde nouveau qui écrase tout le reste de sa puissance. Le foot, il a changé, et les autres ? Sport co ou sport individuel, comment se forgent les légendes et qui y survit ? Pour en parler, un chercheur, auteur d'un livre sur Mbappé, Jean-Baptiste Guégan, un journaliste SoFoot qui défend la FSGT mais qui supporte le PSG, Nicolas Kismartoff, et une conscience du foot français, Sylvain Castendoch. On parlera après pas olympique aussi, celle de Valentin Winato, et celle aussi des équipes de France de hockey sur gazon. Nous sommes le dimanche 21 avril et grâce à vous, l'Esprit Sport est l'émission de sport la plus écoutée de France. Alors merci, on inspire.
L'Esprit Sport. Nathalie Yanetta sur France Inter.
Match retour, quart de finale, Champions League, Barcelone-PSG, 16 avril, Stade Olympique, Luis Companys et... quart de finale, retour, Europa League, OM, Benfica, 18 avril, Stade Vélodrome.
Xavier Monferrand, Julien Froment.
Le but du Paris Saint-Germain d'Ousmane Dembélé au deuxième poteau à la 40e minute. Et ça fait donc un partout. Rapidement avec Hakimi, on revient dans l'axe pour Vitinha, position de frappe. Oh, quelle frappe de Vitinha qui climatise le stade olympique de Barcelone. Exceptionnel but. Mbappé face à Ter Stegen pour le pénalty. Et le but de Kylian Mbappé. 3 buts à 1 pour le PSG.
Hakimi qui va partir. Hakimi côté droit. Il y a pour Mbappé. Mbappé aux avalations des informations. Kylian Mbappé. La frappe. Le nouvel arrêt de marquant de Ter Stegen.
Et Mbappé. Et but.
Ça y est.
Kylian Mbappé pour la qualification parisienne.
Et Paris sera
vainqueur. Une balle de match, une première balle de match, Philippe Rondet.
Une balle de demi-finale pour l'Olympique de Marseille. Luis Enrique qui se lance du droit, c'est le but. L'Olympique de Marseille est en demi-finale de l'Europa League.
Bonjour Jean-Baptiste Guégan.
Bonjour.
Vous êtes expert en géopolitique du sport et vous êtes auteur de Révolution Mbappé chez Michel Lafon. Bonjour Nicolas Kismartoff.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à SoFoot et auteur d'un des 15 articles, je crois, dans ce nouveau livre collectif « Tout n'est pas foutu, 15 raisons d'aimer le foot ». Quand même, aux éditions Solar. Et puis Sylvain Castendoch. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Vous êtes en duplex avec nous. Vous êtes évidemment un ancien joueur professionnel, notamment du FC Metz, et puis ancien coprésident de l'UNFP, l'Union Nationale des Footballeurs Professionnels. Bien sûr, nous allons parler de ce football et de ces footballeurs et de ces stars dans le sport. Mais on s'est fait un plaisir, parce que c'est quand même pas toutes les semaines qu'on a deux équipes françaises qui s'y passent et qui prennent leur place pour les demi de deux coupes européennes. Une semaine d'émotion particulière, Sylvain ?
Ah oui, complètement. C'est vrai que deux clubs en demi-finale de Coupe d'Europe, c'est exceptionnel pour le football français. Et on a failli en avoir trois, puisque Lille...
Ça s'est pas joué à grand-chose aussi.
Près. Ouais. Voilà, ça s'est vraiment passé tout près, donc ça aurait été encore plus fabuleux, mais c'est vrai qu'on a pris vraiment beaucoup de plaisir en ce milieu de semaine.
Alors, on a deux supporters du PSG avec nous, Sylvain, Jean-Baptiste et Nicolas. Est-ce que c'est l'année ou jamais pour le Paris Saint-Germain, messieurs ? Allez, Jean-Baptiste en premier.
Moi, j'y crois. tout est aligné. C'est en plus la dernière saison qu'il y a Mbappé sous maillot parisien. Donc si ça doit bien se terminer, ça va se terminer comme ça. L'histoire est écrite, il suffit d'aller jusqu'au bout et à Wembley on triomphera.
Il suffit, mon cher Nicolas.
Moi, ça m'amuse toujours, ce sentiment français catastrophiste quand tout va mal et on est là, et d'un coup, mon Dieu, on est comme s'il n'y avait pas d'équipe en face. Allez lire ce que disent la presse allemande et ce qui se dit au Borussia. Ils n'ont pas le sentiment qu'ils sont bouffés d'avance. Voilà, et de même, Junior contre qui va tomber, mais ça risque d'être quand même compliqué vu qu'il reste. Le Real a échoué deux fois en Europa League en finale.
Oui.
Et c'est un peu leur difficulté. Pour le PSG, effectivement, c'est bien d'avoir un tableau favorable. Il serait peut-être temps de gagner contre des équipes un peu plus costauds, voilà.
Pour aller en finale...
Pour gagner en finale, il va falloir battre un costaud.
À Wembley, et ce sera le 1er juin à Londres. Ça nous amène à un autre thème, messieurs. Le sport et les nouvelles stars. Comment est-ce qu'elles évoluent ? Comment même elles ont créé un écosystème autour d'elles ? Sylvain, vous avez vécu, en tant que joueur, des années de vache maigre, on va le dire comme ça quand même, pour le football français, même si ça décollait un petit peu. Ça, c'était juste avant 1998. Et puis, vous avez vu la starification absolue après la Coupe du Monde. On dit souvent que le tournant a été à ce moment-là. Est-ce que c'est vrai, Sylvain ?
Oui, on peut même anticiper un petit peu, puisque c'est l'arrêt Bosman en 95, quand même, qui a libéralisé complètement le marché et puis mondialisé le business du football. Donc c'est vrai que 95, 98 ensuite pour l'équipe de France, si on est franco-français, c'est vrai que ça a été l'accélérateur. Et puis les joueurs sont passés dans une autre dimension, c'est
sûr. Est-ce que tout ça n'est pas en réalité, réellement, lorsqu'on va parler des stars qui sont les nôtres aujourd'hui, sur la planète sport en général, plus tardif, et que ça ne s'alignerait pas sur plutôt l'émergence des réseaux sociaux, c'est-à-dire on va qualifier ça les années 2010, en gros, pour faire un peu schématiquement, Jean-Baptiste Guégan.
Ça a déjà commencé avec les années 80, on a commencé à voir le football free qui arrivait. C'est les années Tapie, les années Baize. Ensuite, on est passé dans les années 90-2000 sur un foot qui s'est mondialisé et les réseaux sociaux ont transformé les footballeurs en influenceurs, en leaders d'opinion, ce qu'ils n'étaient pas forcément avant. Il y a effectivement une rupture sociologique en France avec l'apparition de la génération Zidane, mais la génération Mbappé, c'est encore autre chose. Ce sont des gens qui sont capables d'avoir plus de followers, donc de suiveurs, que l'ensemble des chefs d'État européens réunis. Et ça, c'est
que l'ensemble des médias réunis qui parlent de sport, par ailleurs.
Et ils sont même plus forts sur les réseaux que leur club.
Oui, bien sûr. Nicolas ?
Je pense qu'effectivement, il y a une évolution, mais qui est celle aussi, entre guillemets, du capitalisme au sens mondial. On a vu qu'il y a beaucoup de travaux d'économistes qui parlent de cette basculation vers un homme numéricus, le fait que les réseaux sociaux, en Occident, il faut quand même nuancer, ont pris une place importante. Par ailleurs, pour ce qui concerne le football, je pense aussi que c'est lié au fait que tout le monde s'est mis... Alors, prenons le cas de la France, parce que c'est celui qu'on connaît le mieux, tout le monde s'est mis à aimer le football. 98, il y a une vraie bascule pour ça. C'est que moi, avant 98...
Pour le meilleur comme pour le pire.
Avant 98, quand je disais que quand j'ai commencé mes travaux de recherche historique sur le football, quand j'étais regardé comme un cassos par les autres étudiants et par la plupart des professeurs, je me souviens notamment d'Antoine Prost.
Et encore, vous étiez un garçon, vous auriez pu être une fille,
oui,
voilà,
mais
ça aurait été pire.
Ça aurait été encore plus... mais il n'y en avait pas. Enfin, c'était très inimaginable de faire un sujet sur le football.
Sais.
Et en fait, aujourd'hui, on voit bien qu'avec 98 et l'évolution actuelle, c'est devenu... Le football n'est plus qu'un sport. C'est pas vrai, c'est bien plus que ça dans la société. Donc, de fait, les figures dominantes et les figures importantes, ce qui est peut-être récent, ont pris une dimension essentielle dans notre société, dans la représentation de nous-mêmes, dans les débats de société. Mais par ailleurs, ce qui est intéressant, et Mbappé en est un exemple, c'est que certains d'entre eux maintenant l'assument et savent en jouer et savent se positionner. C'est pas dire que c'est forcément de la manipulation, mais ils savent, ils subissent plus forcément, comme par exemple, Zidane était très discret là-dessus, sur sa stature de, entre guillemets, l'immigré algérien préféré des Français. Il avait quand même une certaine pudeur, il n'osait pas trop, même alors que lui-même, en termes de joueur, d'argent, puisqu'il est quand même passé de Bordeaux, Juventus, puis Real, avait franchi ce cap. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a aucun, pour certains, il n'y a aucun souci. Certains marchent sur des œufs et n'ont pas envie, mais là, ils assument leur statut. Et maintenant, c'est M. Emmanuel Macron qui vient consoler Mbappé et pas l'inverse.
On parlera du cas Mbappé tout à l'heure, mais d'abord, Sylvain, je le disais, vous avez longtemps co-présidé l'UNFP, pardon. On va résumer ça en syndicat pour les joueurs, hein. En gros, c'est un petit peu le rôle qu'a l'UNFP. Est-ce que vous, à ce poste-là, vous avez vu des problématiques nouvelles arriver de la part des joueurs avec des disparités, j'imagine, énormes?
Oui, bien sûr. Vous savez, on est parti d'un constat que le monde change, et pas seulement dans le football évidemment, mais dans la société en général, et que le métier de footballeur a changé aussi. Vous le disiez tout à l'heure, moi j'ai connu des années où, par exemple, sur la dimension médiatique, il n'y avait pas du tout l'ampleur et des problématiques à ce niveau-là. Donc c'est vrai que l'arrivée des réseaux sociaux, mais aussi le fait de devoir persuader les joueurs qu'ils avaient un impact inédit sur la société et sur ceux qui les suivent, c'est un vrai travail.
Et c'est difficile ça ? C'est difficile de faire passer ces messages-là ?
Oui, c'est difficile parce qu'en plus... aujourd'hui, ce qui est aussi nouveau et qui prend de l'ampleur, c'est l'entourage. Certains joueurs sont des PME et ne maîtrisent pas suffisamment ni leur carrière, ni les responsabilités qu'ils devraient prendre. Ils délèguent beaucoup trop toutes ces dimensions-là, ce qui fait que quand on parle directement aux joueurs, on peut avoir une écoute, une attention, une ambition et une responsabilité. Mais par contre, après, on a affaire à l'entourage et à tous ceux qui sont là pour conseiller et accompagner le joueur. Donc c'est une complexité supplémentaire qui fait que le joueur doit faire attention à continuer à maîtriser sa carrière lui-même. Et c'est une difficulté parce que la plupart délèguent complètement toutes les dimensions et se contentent juste d'être performants sur le terrain et c'est pas ce qu'ils devraient faire.
J'ai vu Nicolas Kismartoff acquiescer à vos propos.
Oui, c'est un phénomène qui, à mon avis, est très intéressant quand on voit, c'est des PME, exactement quand vous voyez le niveau de salaire et ce qui score de budget qui est le leur, même par rapport simplement à la Fédération Française de Football, si on devrait se situer à ce niveau-là.
C'est les seuls salariés qui gagnent plus que leur patron quand même. Hein.
C'est vrai qu'ils gagnent énormément d'argent et surtout, ils font vivre beaucoup de monde. Alors, il y a des agents qui en vivent très bien. Il y a effectivement, ils ont souvent leurs conseillers médicaux, ce qui explique les problèmes actuels avec les médecins des clubs. Ils ont des conseillers fiscaux, des comptables,
En fait, c'est ça, comme dit Sylvain, c'est des petites PME dans une grande entreprise.
Dans ce versant-là, la communication a pris une ampleur très importante et souvent, les responsables des réseaux sociaux dans les clubs vous expliquent qu'ils essayent de sensibiliser les joueurs et leur entourage à la communication qu'ils peuvent avoir sur les réseaux sociaux et qu'il y a tellement d'interférences, c'est tellement compliqué. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est pas normal? Parce que vu à quoi on a affaire, tout le monde s'en étonne, mais je répète, le football n'est pas simplement un sport, et plus du tout un sport, c'est d'abord une activité économique, culturelle, sociale, très importante. Donc c'est
une vraie activité de divertissement, je suis d'accord.
Une vraie activité de divertissement. Il y a des ouvrages qui sont sortis qui évoquent ça, qui comparent à d'autres activités comme foot porn, exactement. Oui. Voilà, qui sont assez indicatifs, mais même, voilà, donc c'est tout à fait logique. Le problème, c'est effectivement, comment tu prépares des gamins de 16-18 ans à être des chefs de PME quand on leur a expliqué toute leur vie.
Quand ils ont 16 et 18 ans.
Quand on leur a expliqué toute leur vie que d'abord, il fallait être performant, écouter l'entraîneur, assimiler la tactique, assimiler l'entraînement, la nutrition. Voilà, comment vous leur expliquer? Parce que eux, ils n'ont pas toujours été préparés. Ce qui est le cas d'Mbappé pour
revenir. Et du coup, ce sera le cas d'école, évidemment, ce cas Mbappé, cas comme Kylian. On va voir dans la troisième partie après si ce cas Mbappé peut se transposer à d'autres sportifs français en cette année olympique. On en parle encore tous les trois, mais ça sera juste après Olivia Dean et The Others Part.
Call me up to meet you, static on the phone. Normally I need you, this time I don't wanna go. Lately I've been growing into someone you don't know. You had the chance to love her, but apparently you don't. No, you don't. So even if I could, would it go back where we started?
Reportage du jour à présent est consacré au hockey sur gazon. Et oui, pour la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques, les deux équipes de France, féminine et masculine, se sont qualifiées pour la compétition. Les épreuves, évidemment, vont avoir lieu au stade Yves du Manoir à Colombes. Vous savez, ce vestige des Jeux de 1924. Et c'est dans ce lieu historique, Fanny Lechevestrier, que vous nous emmenez à la découverte de ce sport que vous avez pu tester, espèce de veinarde, avec les conseils des joueurs et des joueuses de l'équipe de France.
Nous voilà donc à Colombes sur un terrain bleu synthétique qui a à peu près la même taille qu'un terrain de football, avec face à face deux équipes de 11.
C'est un sport collectif, tu partages beaucoup de trucs avec des amis, des gens, et ça pour moi c'est une grosse force. J'aimais aussi le foot, donc ça ressemble énormément.
Notre coach du jour, coach de luxe, Corentin Cellier, membre de l'équipe de France masculine de hockey sur gazon.
C'est quand même assez physique, c'est très très complet et ça va super vite. En général c'est soit t'accroches, soit tu lâches d'un coup.
C'est parti!
Reste maintenant à apprendre à manier la crosse.
La main gauche en haut. En gicle, c'est que la main gauche qui tourne. Parce qu'en fait, vu que vous avez tourné la crosse dans ce sens-là, si vous tournez votre bras, ça fait comme ça. Je vais essayer de faire ça, comme ça, avec le poignet gauche.
Pas évident tout de suite, hein. Encore moins en match quand on n'a le droit de toucher la balle qu'avec le côté plat de la crosse. Pas le droit non plus, bien sûr, de maîtriser la balle avec ses pieds. Dit comme cela, ça paraît évident, mais essayez et vous verrez que les réflexes reviennent vite.
On a pris plusieurs coups,
priorité numérique. Allez, on profite de la mi-temps bien méritée pour faire un peu plus connaissance avec Delphina Gaspari. À 25 ans, elle devrait faire partie cet été de la toute première équipe de France féminine de hockey sur gazon à disputer les Jeux. Il faut dire qu'évoluer au plus haut niveau quand on est française n'est pas évident. Le championnat ici est encore amateur, avec seulement 150 clubs répertoriés et 12 000 licenciés. La plupart des Bleus sont donc obligés de s'expatrier à l'étranger.
Exactement, donc moi je suis en Belgique. Ça fait 5 ans que je suis à la Gantoise. C'est semi-pro en Belgique, donc non, on n'en vit pas. Mais les clubs, généralement, ils ont des sponsors. Donc par exemple, ils peuvent me prêter une voiture, des appartements. Et puis on peut avoir également coaché les petits, par exemple, et donc gagner un petit peu d'argent grâce à ça. C'est pas toujours facile, mais bon, on vit tellement de belles choses grâce au sport. Du coup, si il faut faire voilà, quelques sacrifices pendant un petit moment, bah c'est tout, on le fait.
Corentin Cellier est l'un des rares à avoir fait le choix de rester pour le moment dans son club de toujours à Montrouge. À 22 ans, il bénéficie d'aide pour concilier études et pratique du plus haut niveau.
Tout petit, voilà, j'ai toujours été très triste que le hockey soit pas plus reconnu. C'est aussi une grande force d'être resté ici pour ça, pour essayer d'un petit peu développer, d'aller parler dans les écoles ou d'autres événements. Mais c'est un gros objectif, ouais, de faire connaître via les résultats cet été. Et on sent qu'on peut vraiment faire cet exploit pour ces Jeux Olympiques, pour pouvoir développer le sport et voilà, le mettre le sport là où il devrait être, en France, quoi, j'espère.
Allez, le match reprend, retour au terrain. Pas sûr, hein, qu'on soit prêt pour dépanner au jeu cet été, mais peut-être pour vous convaincre d'essayer le hockey sur gazon.
C'est très très fatigant. C'est super, hein, mais alors si on fait ça 15 minutes tous les jours, je pense que je perds 5 kilos en une semaine, hein, facile. Hein.
Franchement, moi j'ai adoré l'expérience, c'est vrai que c'est hyper technique. Non, là, on n'avait pas de tactique, voilà, mais...
Non, effectivement, on n'avait pas de tactique.
À notre niveau, c'est aussi, on peut jouer en mixte. Ouais. Ouais.
C'est très complet pour le coup, hein, parce qu'on fait du cardio, en tout cas, on se donne à fond.
Et vous l'avez compris, on a fini bien fatigué. Après seulement 20 minutes à courir partout, pas encore très organisé. Un match olympique, lui, dure 4 fois 15 minutes.
L'Esprit Sport. Nathalie Yanetta sur France Inter.
Et Sylvain Castendu, Jean-Baptiste Guégan et Nicolas Kixmartoff pour parler de ces stars dans le sport et en particulier dans le football et en particulier un cas à qui vous avez consacré avec Clément Pernia un ouvrage qui s'appelle Révolution Mbappé chez Michel Lafon, Jean-Baptiste Guégan. Pourquoi Révolution devant Mbappé?
Parce qu'il y a un avant et un après, parce qu'il change les codes du foot et de la personnalité finalement telle qu'elle est vécue. Mbappé, il pèse littéralement au-delà des terrains, mais parce qu'il pèse au-delà du foot. Et des acteurs comme ça, qui le comprennent, l'assument et sont capables de s'en servir, on ne l'avait jamais vu en France. Mm-hmm. À ce niveau-là, on voit aussi ce que ça représente aussi économiquement. On voit aujourd'hui le bras de fer qu'il a été capable de construire avec son club, avec la Fédération Nationale de Foot, à l'époque de Noël Le Graët. Aujourd'hui, c'est un footballeur qui a dépassé le cadre sportif, qui est un acteur politique. On se souvient tous de la visite d'État de l'émir du Qatar à Paris, avec Mbappé qui arrive comme si c'était l'une des figures et qui serre la main de l'émir tout en plaisantant avec le chef de l'État. On est sur un autre niveau de personnalité. Ouais. On est sur un influenceur, mais plus que ça.
Et en même temps, quand il a un problème avec son club, le Paris Saint-Germain, l'UNFP est intervenu pour s'émouvoir, Sylvain Castendutch, du traitement. On s'en souvient, c'était cet été lorsque ils l'ont mis dans ce qu'on appelle le loft. Alors pour nos auditeurs, le loft, bah, c'est une autre équipe, un peu bis. Vous partez pas faire le stage et la préparation avec l'équipe première. C'est un cas d'école en Ligue 1, Mbappé, Sylvain Castendutch.
C'est un porte-drapeau même, puisqu'en effet, au-delà de ces difficultés ponctuelles, puisque vous l'avez bien résumé, hein, c'est vrai que cet été, l'UNFP est arrivé en accompagnement d'Mbappé, parce que comme plusieurs dizaines, voire quelques centaines de joueurs qui sont mis à l'écart provisoirement pour diverses raisons d'ailleurs, Kylian faisait donc partie de ces joueurs qui étaient dans les lofts, et donc il a eu besoin d'avoir connaissance, et son entourage aussi, des règles, puisqu'il y a une convention collective, il y a une charte qui fait que le joueur aujourd'hui dispose, grâce à l'UNFP, de droits qui ont été mis en place. Donc ça, c'est une dimension, mais par contre, quand on parle de porte-drapeau, c'est aussi à travers son association et son engagement sociétal, tout ce qu'il peut mettre en avant, et puis surtout organiser et servir d'exemple pour l'ensemble des joueurs, pour justement les reconnecter à la société, puisque on leur reproche aujourd'hui, hein, avec le statut qu'ils ont, de pas être forcément ni les pieds sur terre, ni d'être connectés à la société, et grâce justement à des actions, de rendre à la société ce que le football leur apporte. Et Kylian, dans ce registre-là, est également extrêmement exemplaire.
Il n'est pas hors sol, Nicolas Kismartoff, Kylian Mbappé. Il ne donne pas cette impression-là, en tout cas.
D'abord, je pense que, puisqu'on parlait d'entourage, il a été préparé. Il faut quand même le dire, son père et sa mère a été une handballeuse de haut niveau et elle joue un rôle très important auprès de lui. Ils ont accompagné, senti, suivi l'évolution du...
Bah, ils ont tout de suite compris qu'ils avaient un surdoué, pas seulement sur le terrain. Hein. Kylian Mbappé, faut le dire, est un surdoué en tout, y compris à l'école, etc.
Il est à 100 ans, même sa façon de s'exprimer, il parle déjà, il répondait en espagnol à la sortie.
Parfaitement. Jean-Baptiste, avec ce livre dans Révolution Mbappé, vous dites pas que donc c'est pas le football qui a changé, c'est Kylian Mbappé qui a changé d'une certaine le football, et pas que. Alors, bon, il y a l'histoire de ce prénom Kylian qui reprend de la vigueur en 2018. Ça, c'est assez courant. On se souvient que la génération 98 avait eu des petits Lilian et des petits Yuri aussi qui étaient nés. Mais là, quand même, jusque dans des règles de grammaire et des moyens mnémotechniques pour l'orthographe, il sert d'exemple.
C'est un exemple et c'est aussi un exemple d'influence. C'est-à-dire qu'on a vu effectivement cette institutrice se servir justement du nom d'Mbappé pour faire comprendre certaines règles de grammaire à ses élèves. Mais on a vu aussi qu'il était capable...
Donc le M voilà, et non pas le N voilà, devant le B, par exemple.
La fameuse règle du MBP. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir aussi sa capacité à influencer l'écosystème. Et on voit par exemple des joueurs qui ont compris qu'il fallait être mieux entouré, qu'il fallait justement... prioriser le sportif, mais ne pas négliger le reste, et professionnaliser l'entourage. On le voit, par exemple, avec Warren Zaïre-Emery, on le voit avec d'autres acteurs du même genre.
Et là, on est carrément sur la génération, mais très très après. C'est des 2006.
C'est ça.
Ils ont
c'est
8 15, ans d'écart.
Voilà,
avec,
15, 16,
Kylian,
hein. 17, 18 ans. Et on commence à voir, justement, cette approche qu'on voyait avant dans le basket américain de haut niveau, qu'on voyait aux États-Unis et qui nous fascinait en disant, mais ça n'arrivera jamais chez nous. On le voyait même pas ailleurs en Europe. C'est-à-dire qu'en Italie, on n'a jamais vu ce type de fonctionnement-là. Et là, on voit arriver toute une logique effectivement très capitaliste, hein, clairement, où on professionnalise jusqu'au bout et on ne laisse rien au hasard. Il faut tout contrôler, avec un problème. C'est que le versant de ça, c'est qu'il n'y a plus forcément de spontanéité, que tout est planifié, structuré, et qu'on ne laisse pas de place au hasard et à la spontanéité.
Il n'est jamais spontané, Kylian Mbappé ?
Ça n'a pas eu à rêver, on a vu, mais on a du mal, pardon, on a du mal à penser qu'il n'a pas réfléchi trois fois avant son tweet sur Noël Le Graët, par exemple. C'est pas quelque chose que tu lâches comme ça et mais qui était tellement bien écrit, qui disait tout.
Mais il a réfléchi vite, hein, parce qu'il a, il a été le premier à réagir.
Oui, mais je pense qu'il a, il a dû demander conseil. Après, j'étais pas.
On rappelle juste aux auditeurs.
Oui, il a dit, on respecte la légende, on respecte Zidane, on respecte la France,
on respecte
la
légende. Pas Zidane.
Alors que Noël Le Graët dans une interview,
quelque chose comme ça, mais c'est hyper bien vu.
Noël Le Graët dans une interview venait de dire, j'en ai rien à
foutre. Il est même plus spontané sur le terrain en fait en ce moment. C'est quand même ça le problème que tu signales, c'est qu'aujourd'hui on a sentiment qu'il est entre deux époques, même en tant que sportif, il est quand même assez absent, il est plus aussi fou et créateur comme il pouvait l'être avant, et c'est intéressant parce que là, malgré tout, même si c'est quelqu'un qui a dépassé, il reste capitaine des Bleus, hein, et il est capitaine des Bleus, il a gagné une Coupe du Monde, il n'y en a pas des masses en France quand même, il va arriver au Real de Madrid, et là, en tant que sportif professionnel, footballeur professionnel, c'est plus la même maison, c'est un club qui existe sans toi, c'est un club qui a remporté des tonnes de trophées sans toi, qui a vu passer d'immenses joueurs avant toi et qu'on verra passer après. Donc d'un coup, il va peut-être être obligé de se repositionner, et on se demande s'il n'est pas en train de vivre ça. Il dit, vous voyez quelqu'un de perturbé, moi je pense qu'il est perturbé. Voilà, c'est entre deux. Pour revenir sur une chose, sur Mbappé, on peut en dire beaucoup de choses, et t'as raison, il a changé. Malgré tout, la France, le RN, il monte toujours, enfin,
il n'a pas changé le football, comme la génération de Bamber, il n'a pas empêché Le
Pen au second tour, il n'empêche pas non plus tout, il ne change pas tout non plus et il ne fait pas barrage entre guillemets à certaines choses qu'il condamne.
Une dernière question pour vous, Sylvain Castendutch, on évoquait l'avenir de Kylian Mbappé. Forcément, des joueurs comme cela sont obligés de partir et de vivre des aventures dans des clubs de légende.
Ouais, j'ai peur du vide qu'il va laisser, hein, parce que c'est vrai que je pense qu'on mesure peut-être pas suffisamment la place qu'il a et puis surtout tout le bonheur qu'on a eu de le voir s'exprimer sur les terrains français, mais bon, c'est comme ça, comme vous le dites, je pense que dans un plan de carrière, le Real de Madrid, c'est certainement un club qui va encore lui amener une dimension supplémentaire à travers l'histoire et puis surtout un futur qui s'annonce quand même prometteur aussi pour cette équipe, hein, on l'a vu encore cette semaine, donc c'est vrai qu'il va laisser un grand vide, mais en même temps, je pense qu'il va se balader au Real. il va se balader. Je pense qu'il va éclabousser le championnat espagnol et certainement les prochaines Ligues des Champions de tout son talent. Je pense qu'on n'a pas encore tout vu. Et on va continuer à se régaler en regardant Kylian.
D'ici là, on espère peut-être même qu'il gagne l'Euro avec l'équipe de France. Merci Sylvain Castendodge d'avoir été en duplex avec nous. Je vous ai vu plus dubitatif, messieurs, sur le fait qu'il allait tout éclater au Real Madrid.
Bah Jean-Baptiste Guégan. Sportivement, il va falloir qu'il confirme. Or, on sait que depuis le début de saison, là, c'est compliqué. Alors effectivement, il marque, mais ses statistiques cachent aussi des performances qui interrogent. C'est-à-dire qu'on le voit moins rapide, il y a moins de duels gagnés, il y a moins de kilomètres parcourus.
On parle de quelques semaines.
Semaines. Mais ça compte aussi parce qu'on le voit inquiet. On le voit sur le terrain pas forcément réussir ce qu'il a envie de faire. Et ça se mesure. Et puis là, le Real de Madrid, c'est quand même une autre dimension. Le Real n'a pas besoin de lui, tu le soulignais très justement, Nicolas. Et dans ce cadre-là, on va voir comment il est capable de se mettre au service de la marque Real. Or, aujourd'hui, c'est la marque PSG qui s'était mise au service de Kylian Mbappé. Là, on va voir littéralement ce qu'on appelle du co-branding, c'est-à-dire on va avoir deux marques ensemble qui vont avancer, et ça ne fonctionnera que s'il y a des performances des deux côtés.
Mais ça marche pas le co-branding au Real Madrid, en fait. C'est la Maison Blanche avant le reste, bah, Nicolas Kirstorff.
Regardez ce qui s'est passé face à Manchester City. Tout le monde est venu défendre. Parce que Ancelotti a dit, on peut pas battre City sur le jeu, ils sont meilleurs que nous, ce qui était une réalité.
Oui, c'est vrai.
Et ben, on va tous se mettre à défendre et puis on va jouer entre guillemets sans voir te vexer à l'italienne.
Oui, voilà. C'est pas grave parce que tu sais quoi, tant que tu gagnes, c'est déjà pas si mal.
Et Kylian Mbappé, tout le monde a toujours dit, il ne descend pas, il fait pas de repli défensif, il vient pas aider ses camarades. Ça, c'est pas vivable au Real de Madrid. Mais une fois encore, le Real de Madrid, c'est un club qui rend les joueurs grands. Et au PSG, on a attendu que des grands joueurs rendent le PSG grand. Ça a été pour ça qu'on a fait venir Messi, Neymar, et Mbappé en faisait partie.
Ça n'a pas marché.
Mais c'est en train de changer. Et regardez ce qui s'est passé contre Barcelone. C'est Barcola, c'est Dembélé, c'est des joueurs comme ça.
Une équipe saluée le lendemain sur son compte Instagram et Twitter de Kylian Mbappé, qui a tweeté juste une photo avec « Nous sommes »
tout
le Paris Saint-Germain.
En étant tout seul sur la
photo. Il n'était pas complètement seul, vous exagérez, mais il avait créé « Nous sommes ». Alors évidemment, les Olympiques sont à des années-lumière de cette starification, ou alors peut-être que ça jouera à plein pendant ces Jeux. On va en reparler après la prépa olympique, justement, de notre judoka reporter Valentin Winato. Alors franchement, lui, il est loin de ces stars-là. Je vous rappelle que sa cagnotte Les Ch'tis pour l'aider à financer sa prépa est toujours ouverte. Cette semaine, on est à une semaine des championnats d'Afrique, la dernière grosse compétition dans la course aux Jeux de Valentin. C'est là-bas qu'il va essayer d'aller chercher des points. Et là, il reprend l'entraînement, toujours avec ce satané coude qui lui pose des problèmes.
Aujourd'hui, reprise de l'entraînement avec Thomas.
Bien le bonjour.
Oui, c'est des sprints en côte. C'est pas très marrant. Bon. Ça. Ouais. Attends, je vais vomir là. Oh putain.
Ah, oh, je vais crever. Ah non. Mais je suis trompé.
Bon bah fin de séance. Je vais pas vous dire lequel de nous deux a vomi. Peut-être que c'est nous deux. Vous saurez jamais. Écoutez, c'est dur, mais c'est mieux, franchement. Ça vient. Je fais tomber, je suis un peu mis sur les mains. Bon, comme d'hab, il y a beaucoup de travail, mais là, je me sens pas mal. Chouf, fin d'entraînement, pas mal. Je vais rentrer, manger. Encore deux demain. Cardio plus technique, et après, c'est le week-end. Et d'ailleurs, j'y pense, j'ai oublié de vous dire, hier, j'étais en reportage dans un squat qui a été évacué par la police pile 100 jours avant les JO pour faire place nette, comme disent les associations. Ça m'a vraiment fendu le cœur de voir la police mettre dehors des gens qui sont des gens en difficulté. Je vous l'ai dit assez de fois comme ça, les JO c'est vraiment le rêve de ma vie. Je veux ça plus que tout au monde. En revanche, c'est vrai que l'organisation et l'impact que ça a sur la vie des gens et des gens précaires, c'est pas une fierté. Ça fait vraiment mal au cœur de voir ça. Aimerais que t'es en forme.
Ouais, à fond là. Super.
Steph ?
Ouais ?
C'est quoi la prépa aujourd'hui, s'il te plaît ?
C'est travail en 12-15, 12 secondes de travail, 15 secondes de repos. Il y aura
les sprints là ?
Ouais, sprint étoile. Il y aura utilicomi élastique, burpees, utilicomi élastique sur les exos.
Ok. Excellent.
C'est quoi les exos ?
Il vient de tout expliquer, donc en fait, il faut écouter.
Excuse-moi de ne pas être avec.
Utilicomi élastique, burpees, utilicomi élastique.
Okay. Merci beaucoup Steph.
Valentin, bon week-end.
Ouais, toi.
Repose-toi bien.
Ouais. Ouais. Salut. Allez, fin d'entraînement les copains. Je vais pas me porter la poisse, mais je me sens fort. Semaine prochaine, on se voit en Égypte pour le championnat d'Afrique. Ah oh là là, j'ai peur de faire des pronostics, mais je me vois bien avec une petite médaille autour du cou quand même.
France Inter. L'esprit sport, Nathalie Yanetta.
Dernière partie avec Jean-Baptiste Guégan et Nicolas Kismartoff. On se demandait en début d'émission de quoi Kylian Mbappé est-il le nom. Évidemment, le foot est le sport numéro un. Est-ce que les autres sportifs français peuvent un moment ou un autre prétendre à une telle notoriété, une telle aura ? Bien sûr, je vais penser en premier lieu à Victor Wembanyama, qui est lui dans un championnat professionnel ultra médiatisé, ultra friqué et ultra codifié qu'est la NBA. Jean-Baptiste Guégan.
Wembanyama, c'est simple, c'est aujourd'hui le premier rookie à faire ces performances-là depuis quasiment 30 ans dans la ligue qui est la plus internationalisée, qui est regardée par tout le monde et qui fonctionne sur le principe du highlight. Mmh. C'est-à-dire
l'image et qui tout ce qui fait claque, que ça claque.
Littéralement. Et en l'occurrence, Victor fait des performances absolument incroyables dans une petite franchise qui est celle des Spurs, en termes de marché. Hein. Et aujourd'hui, il est respecté alors qu'il vient juste de terminer sa
première
année.
Mais lui aussi, il a une communication parfaite. On parlait des langues étrangères. Il parle l'anglais comme s'il vivait aux États-Unis depuis toujours. Il a à peine 20 ans, Victor Wembanyama. Hein.
Ce qui est assez intéressant, c'est le modèle de performance familiale. C'est-à-dire qu'on a vu se développer...
Exactement le même modèle.
Exactement, on a vu se développer autour un écosystème familial rassurant, structuré, qui, quand il n'y avait pas de compétences, est allé les chercher à l'extérieur, qui a su profiter aussi de l'apport du sélectionneur. Il a été placé dans un club qui l'a entouré, appuyé, accompagné, qui l'a projeté. Tout le monde s'est aligné. Les planètes se sont alignées. Il a performé.
Pour lui permettre, du coup, d'être le premier joueur en termes de draft cette année, qui l'a conduit à San Antonio et aux Spurs. Alors, un autre modèle, un autre grand espoir du sport français, dans la même cellule familiale dont nous venons de parler, Léon Marchand en natation. Est-ce que, avec ces Jeux Olympiques à Paris, Léon Marchand peut d'un seul coup basculer lui aussi dans une notoriété internationale définitive?
Aujourd'hui, on est sur un phénomène qui, si ça se traduit comme ça doit se traduire, va finir probablement avec 5 médailles aux Jeux de Paris, capable d'être aussi performant que Michael Phelps, reconnu par ce dernier, entraîné par Bowman, qui est le coach historique de la natation américaine. Aujourd'hui, Léon Marchand va littéralement changer de dimension avec les Jeux de Paris. S'il arrive à transférer son potentiel et ses victoires-là dans le championnat
NCAA, on lui promet, ouais.
On l'espère.
Les médailles qu'on lui promet, ça peut être un équivalent, vraiment ?
Bah, et la chance qu'il a, c'est les JO de Paris. C'est-à-dire que pour la natation et pour exister en tant que nageur français, il faut avoir des médailles d'or, ce qui a été le cas de Manodou, etc. Et qui leur a permis
d'un coup... Il y a une très grande école de natation en France.
Une grande natation qui remonte avec des grands formateurs, Cato et compagnie. Donc une grande fierté française de ce point de vue-là. Et il y a les JO qui font que la natation, tous les 4 ans, malgré tout, existe médiatiquement, existe en termes patriotiques et de fierté. Et la France, on a un peu parfois brillé. Et là, si à Paris, en plus, ça explose... Effectivement, il va connaître un saut, mais est-ce que ça perdurera derrière ? Est-ce que ça lui donnera ? Non. La chance qu'il a, pour cette période, c'est comme pour le biathlon, des sports comme ça, un Français qui superforme dans un cadre olympique sur une discipline où on est un peu brillant, forcément, ça lui fait changer de stature. Mais il manque la constance et la durée qui est la marque, en fait, de ces nouveaux champions qui allient réussite sportive, économique, poids politique, social, etc. Mais qui sont, comme on l'a dit, des états à eux tout seuls, presque.
Jean-Baptiste Guégan.
C'est ce qu'on écrit justement dans Révolution Mbappé, c'est que finalement, l'histoire, elle n'est pas terminée. Et donc, on ne jugera vraiment de l'empreinte complète qu'ils vont laisser à la fin de leur carrière sportive. Et même un peu au-delà pour Mbappé, parce que je pense qu'il a écrit l'histoire de son sport, déjà. Il est en train de rêver à l'histoire avec un grand H, et la question, c'est savoir jusqu'où il est capable de se projeter. Léon Marchand, on verra, il n'a pas forcément les mêmes ambitions globales qu'Mbappé. Wembanyama, on peut se poser la question, mais pour l'instant, il est focalisé basket. Le plus vieux des trois, c'est Mbappé.
C'est
Et c'est lui qui ouvre la voie. C'est-à-dire qu'il est en train de faire en France ce qu'un Emmanuel Macron a fait avant lui, c'est-à-dire que personne ne l'attendait, il y a eu un saut de génération, il ne doit jamais avoir ces titres-là à l'âge qu'il a. En tout cas, en France, ça ne s'est jamais vu, jamais fait. Même Platini a été performant que sur le tard.
Il y a Thierry Henry qui a eu...
Alors, il y a Henry, mais Henry, il a eu du mal ensuite.
Très jeune.
Voilà.
Et alors, il nous reste deux minutes, messieurs, mais moi, quand même, dans tout ça, et les femmes dans tout ça, dans la starification des grandes championnes, parce qu'on n'en manque pas, et on voit bien que ailleurs, je pense aux États-Unis notamment, Simone Biles par exemple est une icône au-delà même de son sport. En France, on en a des championnes, on en a des figures. Par exemple, Clarisse Agbeninou, plus de titres, plus d'événements marquants, notamment sa maternité, notamment ses combats. Mais qu'est-ce qu'il faut de plus ?
Il faut briser le mur du sexisme dans le sport, je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est en France en tout cas, alors on dit toujours que la France n'est pas une nation sportive, c'est une réalité, on n'est pas une nation omnisport. C'est-à-dire qu'on aime un ou deux sports ou trois sports.
Et une fois
sports,
de temps en temps.
Et les sports en question sont souvent très dominés par la dimension masculine. C'est un des problèmes qui a un peu moins, je nuance, aux États-Unis par exemple ou dans d'autres pays comme l'Allemagne. Mais là, en France, il y a un sexisme... terrible dans le sport, qui n'est pas forcément que, et qu'il faudrait traiter, évidemment, celui des violences, etc., mais qui est quand même globalement en termes de représentation sociale, mais c'est pas que dans le sport, regardez dans le monde politique.
Ouais. On fera une émission après les Jeux Olympiques pour faire le bilan du traitement médiatique et de la starification des femmes dans le sport en espérant avoir des grandes médailles. Merci Jean-Baptiste Guégan d'être venu. Je rappelle votre livre sur Kylian Mbappé, Révolution Mbappé chez Michel Lafon, et un autre qui va sortir la semaine prochaine avec Lucas Aubin sur la guerre du sport, une nouvelle géopolitique aux éditions Talendier. Merci Nicolas Kifmartov d'être venu. Je rappelle que vous avez participé sous la direction de Michael Correra et de Sébastien Thibault à ce livre collectif Tout n'est pas foutu, 15 raisons d'aimer quand même le football. Votre raison à vous, c'est la raison numéro 2, l'antifascisme des mouvements ultra et associatifs. Merci à vous, merci à mon équipe du dimanche avec à la direction des sports Alexandre Gilardian, capitaine Koyen Guyenne à la réalisation, Florian Dorimini à la technique et à la programmation musicale, Jean-Baptiste Audibert.